Salut, c'est Alexis, vous écoutez un nouvel épisode du podcast de Contournement. Cette fois, j'ai discuté avec Arnaud Deberg, le créateur d'Infinable, un outil no-code pour créer des sites web et des applications. Alors, je trouve que c'est un sacré challenge dans lequel Arnaud et son équipe se sont lancés, donc j'ai voulu en savoir plus. J'avais plein de questions pour comprendre d'où leur était venu ce projet, quelle était la vision derrière ce produit. On a longuement échangé sur les choix qu'ils ont faits, les difficultés auxquelles ils font face, et du coup c'était vraiment passionnant de passer de l'autre côté du miroir et envisager les app builders du côté de l'éditeur plutôt que de l'utilisateur. Ça devrait vous apporter pas mal d'éclairage sur les questions que vous pourriez vous poser sur le fonctionnement de Bubble ou Adalo, parce que vous verrez que finalement ils font tous face au même problème, quelle que soit leur taille. Allez, bon épisode. Salut Arnaud, bienvenue dans le podcast de Contournement.
Merci de m'accueillir.
On va parler avec toi de Infinable, donc l'outil no-code, la plateforme no-code que tu as créé il y a 2 ans, voilà, qui est, je pense, l'un des premiers ou le seul app builder français, en tout cas, que je connaisse aujourd'hui.
Oui.
Voilà, tu t'es lancé dans une aventure entrepreneuriale et puis vraiment d'une mission de proposer une nouvelle vision de la construction d'applications en no-code. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle mission, ambitieuse. Et donc on va justement en savoir un peu plus, tu vas nous raconter un petit peu tout ça, tout ce qui t'a amené, à ça, quelle est cette vision, ce que propose Infinable, quelles sont un peu les particularités. Pour commencer, si tu peux te présenter un petit peu, qu'on en sache un petit peu plus sur toi déjà, de ta vie d'avant aussi à Infinable.
Donc moi c'est Arnaud, j'ai un parcours d'école d'ingénieur assez classique après une prépa. J'ai eu principalement deux expériences professionnelles avant Infinable. UART.com, qui était une plateforme pour communiquer sur des collections d'art privées, augmenter leur visibilité sur Internet, donc adressée essentiellement à des collections d'entreprises. J'ai travaillé avec ma femme et un autre associé là-dessus, en tant que CTO. Ensuite, j'ai passé plusieurs années en data science chez AXA, dans leur labo spécialisé là-dessus. Et là-bas, voilà, j'ai travaillé ce qui m'a le plus passionné, c'était la création d'outils pour donner accès aux données, aux métiers, leur créer des interfaces web essentiellement, et rendre intelligible via le design, rendre intelligible de tous les modèles qu'on avait construits. Et voilà. Puis ensuite, Infinable, que j'ai commencé à travailler dessus encore étant chez AXA. En side project, initialement, j'avais construit principalement pour mon cas d'utilisation. Et puis petit à petit, quand je voyais que ça grossissait, on commençait à entendre parler du no-code. Et du coup, je me suis dit, si je me lançais à temps plein là-dessus.
Et alors justement, je trouve ça intéressant. Quel était ton cas d'utilisation? Parce que si je comprends bien, quand même, tu sais développer, tu es développeur à la base.
Oui.
Et qu'est-ce qui t'a amené à te dire, je vais faire une plateforme no-code? Et surtout si tu t'es dit, à la base, je vais le faire pour moi, quoi. C'est-à-dire que je vais me faire un outil qui va me permettre de plus avoir à coder. Mais je vais devoir coder cet outil.
Et c'est une bonne question, et c'est une question qu'on pose souvent. Pourquoi, en tant que développeur, je développe depuis que je suis assez jeune et j'adore ça. Et du coup, c'est un peu de détruire son propre métier. Je dirais que dans la plupart des projets web essentiellement, parce que j'adore le web, je trouve que ça mélange à la fois le design et le développement. Et donc à chaque fois, j'avais l'impression de réinventer la roue à chaque nouveau side project ou chaque nouveau projet pro sur lequel je travaillais, à savoir recréer à chaque fois une base de données, gérer l'admin pour gérer la base de données, refaire des interfaces, se recréer ce qu'on appelle un design system avec des éléments visuels réutilisables. On a aussi des actions qu'on fait toujours quand on gère le sign-up de nouveaux users, quand on gère le login, quand on fait des envois d'email internes. Donc j'avais à chaque fois des séries de blocs à la fois visuels ou d'actions que j'avais envie de réutiliser. Et puis je suis aussi un grand fan de tous les outils design qui sont utilisés dans la création visuelle, que ce soit des Photoshop, Figma, ou même dans le développement de jeux vidéo avec des outils comme Unity ou Unreal Engine. Et du coup, je trouvais ça fou parce que à la fois l'écart qu'il y avait entre les outils qu'on avait pour le développement web, où on était purement, enfin des outils assez basiques, l'éditeur de texte aussi chouette soit-il, et puis ces outils qui accéléraient quand même beaucoup le développement de projets aussi complexes que des projets de création de jeux vidéo. Et donc c'est voilà, j'ai eu l'idée de créer ça en m'inspirant beaucoup de Figma au début.
L'ambition, c'était un peu de faire un Figma qui permettrait de vraiment créer des applications, quoi.
C'est ça. Je connaissais pas non plus Bubble au début, j'ai découvert en cours de route. Avec leur logique de workflow qui apporte la partie logique applicative aux outils de pure design. Mais donc voilà, c'est un peu le point de départ, cette fascination pour ces outils qui augmentent un peu le travail du créatif et qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Et c'est vrai, quand je vois maintenant, quand je veux créer un side project, le temps que je mettais avant, qui du coup me déprimait à l'avance sur le fait de me lancer dans ce side project. Voilà, et puis je voulais aussi donner la possibilité à d'abord mes proches qui souvent quand on lançait les side projects, c'était avec des amis, en famille.
Tu voulais plus les faire, tu voulais plus faire leur side project,
je voulais leur permettre de ou alors faire le début, mais leur permettre de gérer la maintenance.
Okay. D'être autonome,
c'est ça. Ouais. Ou les laisser faire le design et puis moi gérer la partie workflow. Et donc petit à petit, j'ai commencé à créer cet outil qui a beaucoup évolué depuis le début. On pourra en reparler.
Justement, alors parlons un peu de Infinable. Est-ce que tu peux présenter en quelques mots un petit peu ce que c'est, ce que ça fait, comment tu l'as conçu, quoi.
Donc Infinable, en quelques mots, c'est un app builder no-code pour créer des applications web. Des applications web qui sont dynamiques et riches en données. Donc l'idée, c'est de permettre de créer par exemple un clone d'Airbnb, de pouvoir définir le design de ces pages avec une grande liberté de customisation des éléments visuels, permettre de configurer son modèle de données sans avoir des connaissances en base de données, et puis gérer la logique applicative, à savoir quand je clique sur le bouton sign up, crée-moi un nouvel utilisateur, envoie un email de bienvenue et ensuite redirige-moi vers le dashboard, et puis permettre aussi d'étendre les bouts de code qu'on peut utiliser à l'aide de services externes pour pas avoir à tout refaire dans la plateforme, mais s'intégrer avec des CRM externes, un peu tous les services qui exposent une API.
Ok, alors ça va pas être évident parce que on va avoir que l'audio, donc tu vas devoir un peu essayer de ouais. décrire justement d'imager un petit peu tout ça pour rentrer un petit peu dans le détail de chaque fonctionnalité que tu as évoquée. Alors pas forcément trop dans le détail non plus, mais essayer de voir un petit peu les parties pris que tu as fait, par exemple pour la gestion de la base de données, des choses comme ça. Mais j'ai juste une question qui me vient avant, justement, où tu disais que tu connaissais pas Bubble au moment où tu as commencé à faire ton outil. Est-ce que du coup ça t'a pas aidé peut-être justement à pas avoir une vue biaisée, à avoir cette conception, enfin du coup tu fais pas un clone de Bubble, t'as vu ta propre vision avant de confronter à d'autres choses qui existaient, quoi.
Donc quand j'ai démarré, j'avais essentiellement la partie création de l'interface qui était le premier MVP que j'avais fait, avec des petites actions qu'on pouvait lancer à côté, comme de pure navigation ou d'autres actions visuelles. Ce que j'ai découvert avec Bubble, c'était un peu leur logique de workflow que je trouvais intéressante. Et pour avoir fait quelques tests, et puis après avec des interviews que j'ai fait avec des utilisateurs de Bubble, j'ai voulu essayer de la transformer pour avoir une plus grande liberté de définition de sa logique applicative, et quelque chose qui soit plus visuel que dans Bubble, où on a une suite de blocs un peu les uns à la suite des autres, que je trouvais un peu trop restrictif. Et c'est vrai que ma vision initiale d'Infinable, c'était et un peu le choix du nom, c'était des capacités infinies, de ne pas être bloqué avec avec un outil no-code à un moment où on voudrait complexifier un peu l'application. Donc c'est un gros challenge, on n'y est pas encore. Mais du coup, j'ai essayé de réfléchir un peu au framework derrière pour avoir quelque chose qui soit assez flexible et qui soit à la fois proche des concepts du code, mais qui apporte une couche d'abstraction.
Ok, et alors par exemple, comment ça se manifeste un petit peu justement cette partie de programmation, de workflow? Comment ça s'appelle déjà? Ça vous s'appelle pas des workflows?
Alors ça s'appelle des workflows, mais on a trois composants qui vont permettre d'apporter cette couche dynamique dans une application et qui vont permettre de se différencier d'outils de création de sites purement statiques comme Squarespace. On va avoir à la fois des variables. Donc des variables, c'est des petits éléments où on va stocker une information dynamique. Par exemple, je vais avoir une variable, est-ce que mon utilisateur est logué ou pas? Et cette variable, ensuite, je vais pouvoir l'utiliser pour, par exemple, afficher ou non le bouton login, pouvoir afficher ou non l'information. Et on peut avoir aussi une variable qui peut être la liste de mes tâches dans une to-do list. Et cette liste de tâches, ensuite, je vais l'utiliser dans mes éléments visuels pour afficher répéter mon élément qui va être la tâche individuelle. Donc ça, on va avoir à la fois ces variables. On va avoir aussi des expressions qui vont être un peu une combinaison de variables ou d'autres éléments. Par exemple, si on fait un clone Airbnb, sur la page de confirmation de sa réservation, on va vouloir afficher le coût total. Et pour ça, on a besoin d'utiliser à la fois d'utiliser des informations qui viennent des données, à savoir le prix par nuit de mon lieu. On va vouloir le multiplier au nombre de nuits qui a été sélectionné par l'utilisateur dans l'interface. Et on peut rajouter aussi les taxes. Et donc ça va être défini à l'aide d'expressions. Et ensuite, le troisième composant pour gérer l'aspect dynamique des applications, c'est les workflows. Donc ça, c'est du coup assez similaire à l'approche de Bubble. Si ce n'est que sur Infinible, on va avoir plutôt des blocs connectés entre eux par des connecteurs, un peu comme ce qu'on peut avoir sur Integromat. Je ne sais pas si ça peut parler.
C'est le sujet de l'épisode juste avant, donc l'épisode numéro 10 qui sortira juste avant celui-là. Donc
sur Integromat, on a à la fois un workflow avec des nœuds qui sont connectés par des petites connexions, et ça permet de définir une logique applicative plus riche, notamment quand on a des actions en parallèle qu'on veut exécuter. Sur Bubble, c'est plus compliqué à gérer.
Faire des embranchements,
c'est ça. Et visuellement, c'est, je trouve, plus facile à comprendre et même à partager avec quelqu'un de non technique, lui montrer qu'est-ce que fait mon bout de code. Parce que c'est aussi l'intérêt du no-code, c'est de pouvoir partager, d'éviter de montrer du code écrit sur un éditeur de texte.
De la programmation visuelle, vraiment.
Ouais.
Et t'as fait des vidéos, hein,
où j'ai fait, alors on commence à faire des vidéos, et pour l'instant il n'y en a que trois.
J'en pourrais les partager justement dans les notes de l'épisode, parce que je pense qu'il faut le voir aussi, c'est important pour les gens qui sont intéressés de regarder, quoi.
Et donc effectivement, c'est cette partie conception, définition de la logique applicative, ça a aussi beaucoup changé depuis le début. Initialement, je m'étais beaucoup inspiré de ces outils de développement de jeux vidéo, avec notamment Unreal Engine, qui propose cette logique de workflow avec des blocs connectés entre eux. Mais on arrive assez vite avec comme sur Unreal Engine, avec ce qu'on appelle du spaghetti code, où on a beaucoup trop de connexions entre les blocs. Et donc du coup, après, j'ai fait évoluer la plateforme en mettant moins de connexions entre les blocs et en mettant plus de logique dans la partie des expressions, pour éviter d'avoir, quand je veux juste faire la somme de deux valeurs, d'avoir à créer un bloc qui va calculer la somme et ensuite utiliser le résultat, où on se retrouve à la fin avec du code inintelligible.
Et ce qui est tout à fait possible aussi en programmation visuelle, quoi.
Ce qui est tout à fait possible, c'est ça. On peut assez vite. C'est un danger du no-code de faire. Dès qu'on commence à faire des applications un peu complexes, d'avoir quelque chose qu'on comprend plus du tout, et où un bon développeur aurait pu structurer son code à l'écrit de manière logique, et sur un dans un outil no-code, on, on peut assez vite, c'est ça, avoir quelque chose d'intelligible. Donc c'est un gros challenge sur lequel on fait gaffe, et notamment dans quand on crée des templates qui vont ensuite être réutilisables par d'autres personnes. C'est arriver sur un template qui a été défini par quelqu'un d'autre. Il faut réussir à rendre toute la logique applicative définie qui soit assez claire pour que la personne passe pas non plus des heures à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est un challenge des outils no-code qui est le même challenge, je pense, pour Bubble,
pour tous les concepteurs
de plateforme. Ouais.
Et alors sur le côté base de données, un petit peu, c'est quoi le paradigme? Qu'est-ce que vous avez, comment est-ce que vous avez présenté ça?
Alors sur la partie base de données, on s'y est penché dessus assez tôt, parce que les premiers cas d'utilisation d'Itinable, c'était essentiellement des side projects ou des projets où on n'avait pas de base externe, pas de service externe, mais qu'on voulait recréer la base depuis zéro et avec connecter une interface. Et donc là, l'idée, ce qu'on a voulu dès le début, c'est d'être le plus proche de la définition de base de données classique, avec donc différentes tables connectées entre elles, avec des relations, permettre de définir une relation entre deux tables de manière simplifiée pour quelqu'un qui a pas de base en ce qu'elle veut dire en base de données, et avec permettre aussi de définir des permettre aux utilisateurs de stocker des informations assez variées, que ce soit des images, des informations sur des images, des emails, d'avoir une typologie assez claire, et ensuite que les formulaires qui permettent de définir ces types soient assez simples pour que l'utilisateur s'y retrouve quand il veut créer des nouvelles données. Et voilà, un peu tout l'inverse d'un outil de gestion de base de données comme PHP, PGAdmin.
Ouais, d'accord. Ok, et alors on est passé un peu à la partie technique directement, mais alors sur la partie design,
ouais,
c'est un truc qui m'intéresse parce que c'est là aussi où vous êtes très différent de Bubble, par exemple. Enfin, on va pas tout le temps comparer à Bubble, mais bon, c'est vrai que c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Si tu veux justement parler un petit peu comment se passe la conception graphique des applications dans Infinable.
Alors si on devait comparer déjà à des outils existants qui pourront peut-être pas parler, Infinable est plus proche de Webflow pour la partie conception graphique que de Bubble. Alors initialement, on était plus proche de Bubble, à savoir quand on mettait des éléments graphiques sur la page, on pouvait les déplacer, faire du drag and drop un peu comme sur Sketch, sur Figma,
sur Wix,
où on va avoir ensuite des lignes qui vont nous permettre de savoir à quel moment on se trouve au même niveau que d'autres éléments. Et je trouvais j'étais un grand fan de Figma, et du coup je trouvais que la manière dont c'était géré dans Figma c'était vraiment génial. Mais après au moment où j'ai voulu commencer à créer des applications plus complexes avec Infinable, et cette logique là ça commençait à devenir beaucoup plus complexe, notamment gérer la partie responsive de son application avec cette logique là donc dans Figma ou même dans des outils comme Framer qui est un super outil aussi, on utilise ce qu'on appelle des contraintes. Où on va dire cet élément il doit grossir vis-à-vis de tel autre par rapport à tel autre élément. Mais dès qu'on a des structures qui sont assez avec une grande hiérarchie de beaucoup d'éléments les uns dans les autres pour avoir une structure de page plus complexe, ça devient horrible à maintenir quelque chose comme ça. Et puis notamment dans des outils de design comme Figma ou Framer, on ne design pas avec les données, donc on veut juste à la fin avoir des mock-ups qu'on va pouvoir présenter. Mais dans la vraie vie, quand on développe, on a envie d'avoir des éléments visuels qui vont s'adapter aussi au contenu qu'ils vont avoir dedans. Si j'ai du texte qui est plus gros, ben j'ai envie que mon élément éventuellement grossisse avec, ou j'ai envie de faire un renvoi à la ligne. Et donc la logique utilisée par Webflow est beaucoup plus intéressante pour ça, pour gérer ces interfaces plus complexes. Et donc en fait il y a un an ouais, j'ai changé toute la structure de gestion des interfaces dans Infinable pour me rapprocher de la logique de Webflow qui est plus proche de de ce qu'on fait en code, à savoir ce qu'on appelle le box model, où on va avoir des boîtes imbriquées entre elles avec éventuellement des éléments visuels dedans, des boutons, et on va à la fois définir les éléments avec des marges, avec ce qu'on appelle du padding pour dire quel espace je veux mettre dans tel élément, et ensuite on va gérer tout ce qui est l'alignement, le positionnement des éléments avec des outils qui sont puissants sur internet comme Flexbox, comme les grid layout, et puis des positionnements qu'on appelle des positionnements absolus, où on va définir le positionnement du bouton par rapport à son élément qu'il contient. Où je vais dire que par exemple, je veux que mon bouton soit en bas de la page et centré au milieu. Et tout de suite, ça m'a permis de créer des interfaces beaucoup plus riches, et on passait moins de temps à définir la partie responsive. Et voilà, la richesse des applications qu'on pouvait créer avec XML a commencé à s'améliorer. Après, c'est sûr, c'est moins évident quand on arrive sur la plateforme. C'est sûr que c'est beaucoup plus sympa de démarrer comme sur Bubble, où on fait du drag and drop, où on positionne un bouton, je peux exactement positionner sur la page, mais je sais pas tellement ensuite comment ça va s'adapter à différentes tailles d'écran.
C'est un peu comme ça, hein, d'ailleurs, qui justifie ce choix qu'ils ont fait, qui à mon avis est surtout un choix historique, et que la transition n'est pas évidente. D'ailleurs, tu pourras nous raconter justement comment toi tu es passé de l'un à l'autre, qui est pour une autre échelle. Mais effectivement, ils disent que c'est très accessible, ce côté drag and drop à la Wix, quoi. Pour moi, c'est pas comme ça, effectivement. Alors, c'est peut-être mon côté développeur, hein, mais que c'est pas comme ça que fonctionne le web. Et qu'on sait que si on positionne des éléments un peu n'importe où, le code qu'on doit générer derrière pour que ça soit rendu comme ça dans le navigateur n'est pas la bonne manière de fonctionner, quoi. C'est que des éléments qui flottent un peu partout en position absolue et qui ne sont pas relatifs les uns aux autres, etc. Et donc, en plus, ça a l'inconvénient, qui aujourd'hui est un gros inconvénient, de ne pas pouvoir bien s'adapter aux responsives et donc aux différentes tailles d'écran ou aux différentes tailles de contenu, comme tu le précisais, puisque on ne sait pas toujours la longueur du texte qu'on va avoir dans sa base de données.
Ni
la hauteur. Et, donc, et effectivement, après, je pense que Bubble, ils se sont construits à un moment où le web n'était pas le même qu'aujourd'hui. Je pense que quand ils ont commencé, par exemple, les grid layout n'existaient pas, les CSS grids. Flexbox peut-être venait d'arriver. Enfin voilà, parce que toutes ces technologies évoluent aussi extrêmement vite. Et je pense que toi, tu as peut-être eu la chance justement de pouvoir basculer de paradigme. À mon avis, ça c'est un avis complètement personnel, tu as très bien fait, parce que moi je crois beaucoup plus à ce modèle à la Webflow, on va dire, qui est un peu la référence. Mais c'est intéressant. Alors du coup, justement, la question que je me posais, c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les applications pour les gens qui avaient fait des applications avec Infinable dans la version, on va dire, drag and drop, quand vous avez changé, vous, éditeur, au niveau de la plateforme, le fonctionnement des interfaces, quoi.
Alors, je pense qu'on avait la chance d'être encore au tout début d'Infinable pour faire cette migration. Je pense que pour Bubble, s'ils devaient migrer, ça serait, il faudrait qu'ils aient deux plateformes un peu en parallèle avec gérer deux plateformes très différentes, parce que ça va... je ne connais pas toute la stack, comment tout fonctionne chez Bubble, mais il faut gérer à la fois la partie app builder, gérer la partie génération du code à la fin qui est utilisé en production. Et donc voilà, refaire tout ça. Donc moi, on l'a fait un peu à la mano. Je me suis focalisé sur les plus grosses applications qui tournaient, et puis je me suis posé avec les gens.
Je les ai refaites,
ouais, c'est ça. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait beaucoup de gens qui s'étaient créés des applications initialement juste pour tester. Vous avez juste fait du drag and drop. Ils avaient mis un bouton, une image, une carte pour voir comment ça marchait. On a tout aussi ce profil d'utilisateur qui arrive, qui veut juste découvrir ce que c'est que le no-code. Et qui n'ont pas une idée claire de ce qu'ils veulent faire. Donc, par rapport à tous les utilisateurs, on n'avait pas beaucoup d'applications à ce moment-là qui étaient des applications qui tournaient avec des utilisateurs. Donc, voilà, ça a pris un peu de temps. Mais
donc, tu confirmes que
je suis heureux d'avoir fait ce changement-là. Ouais. Et c'est assez amusant quand on regarde un peu comment évoluent les outils comme Figma et Framer. Ils se tournent de plus en plus un peu vers ces concepts de Flexbox. Dans Framer, on a ce qu'on appelle des stacks qui répliquent un peu ça. Dans Figma, ils permettent de gérer un peu de le, tout ce qui est padding ou des aspects grid layout, tout ça qu'ils n'avaient pas initialement. Et ils vont de plus en plus vers ça parce qu'ils se rendent compte que voilà, le faut aussi un peu réutiliser toute l'expertise du concept du web qui est top. Et aussi au niveau performance, quand on génère à la fin le code qui va être utilisé en production pour l'application, c'est beaucoup plus rapide. Quelque chose qui se base sur le qui est assez natif sur ce qui se passe vraiment dans le web, que de chercher à faire des à avoir du code où tous les éléments sont définis par des contraintes, où à la fin quand on veut définir ça en vrai, ça va faire du code qui est beaucoup moins performant. Et on avait des applications à la fin qui étaient très grosses où on sentait le ventilateur de l'ordinateur qui tournait à fond.
Ah ouais. Alors j'ai deux petites questions techniques, c'est un petit peu moins le sujet du no-code, mais qui m'intéresse aussi. Alors je pense qu'il y en a une, tu viens de donner la réponse. Alors, un, c'est quoi les technos qui sont en dessous, que vous utilisez pour programmer Infinable? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous générez du code pour chaque application ou est-ce que vous interprétez? Parce que par exemple, Bubble, c'est du code qui est interprété à la volée, donc au moment où on affiche l'application, ils lisent comment elle a été créée et puis ils la rendent. Donc voilà, c'est des détails un petit peu techniques, mais qui m'intéressent.
Alors, c'est effectivement une bonne question. Et on ne sait pas toujours comment ça se passe derrière chaque app builder. Donc c'est, sur Infinable, c'est du code qui est généré. À chaque fois, dès qu'on est dans la builder, qu'on définit le design, quand on passe en mode preview, là on est toujours sur du code qui est interprété à la volée. Pour aller plus vite, c'est que la génération de code, ça prend plus de temps, et quand on est dans la partie design, on a envie d'aller plus vite. Mais ensuite, quand on passe en production l'application, on n'a pas envie qu'au niveau du... c'est un choix que j'ai fait, j'avais pas envie qu'à chaque fois qu'un utilisateur arrivait sur la page, on ait les éléments visuels qui soient interprétés et qui viennent d'une base de données.
Consommer, c'est ça.
Je voulais vraiment avoir une... Parce que dans ce cas on est assez proche de langages comme PHP ou de... qui vont générer du code côté serveur, et du coup là c'est les éléments visuels qui sont générés côté client. Donc d'un point de vue performance, je préférais pas. D'un point de vue et on sait que la performance est assez importante en web pour le SEO, pour plein de choses, et je préférais que les seuls échanges de données entre le client et le serveur soient pas des éléments visuels, mais soient les pures données utilisées dans l'application. Et c'est vrai que si ensuite on veut dans le futur faire passer Infinable vers un outil pour générer différents types de software, pas uniquement du web, être passé par cette partie de génération de code va nous simplifier la vie quand on voudra générer non plus du code web mais du code mobile. Donc c'est effectivement, on génère du code actuellement. Actuellement, on n'expose pas ce code aux utilisateurs, ils peuvent pas le voir. Aucun n'a demandé ça actuellement, sauf sur des use cases corporate où on a une fois un corporate qui a demandé, il voulait absolument mettre le code généré sur son GitHub. Donc comme on n'a pas de connexion directe entre Infinable et GitHub, du coup il téléchargeait à chaque fois le code et mettait sur son GitHub interne.
Okay.
On a fait évoluer aussi cette partie génération de code parce que même nous, quand on débug le code généré, on a envie que ce soit suffisamment intelligible pour réussir à comprendre là où il y a des problèmes. Donc on s'approche de plus en plus à une structure de code généré qui serait un peu la même que je définirais si je commençais un nouveau projet, avec essayer de générer même le nommage des éléments qui soient compréhensibles.
Okay.
Parce que ça nous, pour la partie développement, c'est beaucoup plus simple de savoir qu'un bout de code qui gère une action de sign-up, il s'appelle sign-up dans le code et qui ne s'appelle pas un identifiant aléatoire généré.
Est-ce que vous envisagez, comme on peut le faire avec Webflow à un certain niveau de pricing par exemple, de laisser les gens exporter leur code et puis faire leur vie avec? Parce que c'est quelque chose que vous envisagez. C'est un peu le modèle de DraftBeat par exemple, qui est complètement focus sur le mobile. Mais où on peut, en fait, l'abonnement qu'on paye sur DraftBeat n'est pas pour l'hébergement, mais pour l'utilisation de l'outil qui à la fin génère un code, enfin une application React Native, et qu'on peut déployer sur les stores, modifier, passer à une agence de dev, enfin.
Alors pour la partie interface, ça aurait son sens de permettre l'export, mais Infinable n'apporte pas uniquement la partie création d'interface, contrairement à beaucoup d'outils qui vont permettre de créer toute la structure de code, et donc à la fin. Dès qu'on veut ajouter la partie dynamique, c'est normal qu'ils puissent permettre d'exporter parce qu'on a envie de. On va ajouter manuellement.
D'ailleurs, c'est une bonne remarque parce que pour corriger un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que dans Webflow, on peut exporter que le front-end. On ne peut pas exporter cette partie-là.
Voilà.
Et DraftBit, effectivement, n'a pas de base de données, c'est qu'une application client.
Donc voilà, c'est vrai qu'Infinable gère aussi toute la partie base de données, la partie logique applicative. Il faut savoir que la partie logique applicative, ce n'est pas uniquement. De la logique qui se passe dans le navigateur, mais c'est aussi des workflows qui vont être exécutés en côté serveur, donc que l'utilisateur voit pas. Cette partie workflow exécuté côté serveur, c'est encore quelque chose qui évolue beaucoup sur la plateforme. Nous on gère toute l'infrastructure pour permettre de gérer les bases de données, gérer cette logique applicative. Et du coup, si on devait exporter, il faudrait exporter toute la définition de l'infrastructure, ce qui est quelque chose qu'on a testé sur un cas entreprise chez AXA, où on a travaillé sur trois cas d'utilisation, où dans deux cas, on n'avait pas des données On avait très peu de données et pas de données sensibles, mais dans un autre cas, sur un cas d'usage d'assurance avec Uber, on avait des données qu'on n'avait pas envie de partager, et notamment des données clients. Et du coup, on a voulu héberger sur la plateforme AWS d'AXA. Mm. Et pour ça, du coup, on a redéployé une instance d'Infinable sur la plateforme non seulement la partie interface qui a été hébergée, mais aussi toute la partie base de données et la partie gestion des workflows en back-end. Donc c'est plus dans ce sens-là que je verrais exporter pour héberger soi-même sur sa plateforme. Je trouve que ça n'a pas forcément de sens, sauf si on a envie d'exporter toute la plateforme et l'héberger. Et y a beaucoup de cas en entreprise où l'entreprise veut avoir la main sur l'infrastructure, et c'est un point d'entrée d'avoir cette partie on-premise de la plateforme.
Ça, c'est vrai que nous, c'est quand on évangélise, on va dire, autour du no-code, notamment en entreprise, c'est une des questions qui revient tout le temps. Et à mon avis, il y a quelque chose vraiment à faire là-dessus, parce que ça, c'est un vrai intérêt. Les entreprises, à mon avis, sont très intéressées par des outils qui peuvent faciliter la vie de leurs collaborateurs pour construire des applications, etc., à l'unique condition que ça puisse être hébergé chez eux. Et aussi parce que ça, c'est peut-être aussi la seule option qu'il y aurait pour s'interconnecter avec leur SI. Donc ça, c'est les deux. C'est déjà, ils veulent de toute façon, dans tous les cas, même si c'est une appli autonome qui soit, qui héberge des données à eux, je sais pas, par exemple, d'assurer pour une assurance, et en plus si ça doit s'interconnecter avec leur SI, envoyer des données au SIRH ou je sais pas quoi, là il faut que ça soit vraiment une prémisse, quoi. Et donc ça, à mon avis, il y a quelque chose de vraiment intéressant, et en plus du fait, pour des boîtes françaises, d'être un éditeur français, quoi.
Et il y a des super éditeurs qui existent déjà sur cette partie entreprise, qui ont fait des levées de fonds assez énormes dans la tech, avec des Appian, OutSystem, Mendix, Betty Blocks qui sont. Ouais.
Est-ce que tu trouves que ces outils-là, alors ça c'est une bonne question que tu dis ça, parce que moi, tous ces outils que tu viens de citer, pour moi je les classe dans la catégorie low code. Pas avec des paradigmes pas comme le vôtre, pas comme Bubble, où là on est vraiment sur des choses, nous en tout cas on qualifie nos codes, après bon c'est un débat sans fin, mais où il y a cette approche qui est très orientée utilisateur, très prenable d'accès, ou même s'il y a besoin peut-être d'une petite formation pour rentrer dedans, et qui à mon avis aussi marche en entreprise. Mais alors que tous ces éditeurs que tu viens de citer, pour moi, ils ont une approche, en vrai, je ne les connais pas très bien, mais très low-code, très, effectivement, on va déployer ça dans vos DSI. En fait, ils s'adressent aux DSI, à mon avis. Ce qui, à mon avis, n'est pas forcément l'intérêt que je verrais pour Infinable ou des app builders no-code très accessibles Tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais. Non, moi, je connais pas tous les outils entreprises. J'ai pas mal utilisé Mendix et BettyBlocks.
Ouais, d'accord.
Tous ces outils ont beaucoup évolué récemment. Initialement, c'est vrai que c'était du pur low code où il fallait derrière avoir un Accenture qui fasse le déploiement.
Ouais, c'est ça, un consultant.
Des outils maintenant comme Mendix et BettyBlocks, ils s'adressent beaucoup aux citizen developers dans les entreprises.
D'accord.
Ils veulent créer un peu ces intrapreneurs dans l'entreprise qui soient leur permettent d'avoir la main un peu sur tous les middleware, les back office qui sont créés dans leur entreprise. Et ils veulent aussi apporter un peu cette sécurité à l'IT qui a peur souvent de ce qu'on appelle le shadow IT. C'est quand chacun fait un peu ce qu'il veut avec les outils qu'il veut. Ça devient, on finit par avoir une IT qui est un peu énorme, tentaculaire, où on ne sait plus qu'est-ce qui fait quoi, et puis il peut y avoir des failles de sécurité. Donc ça apporte une centralisation, une gestion des rôles que les DSI apprécient. Mais ils donnent la main un peu aux personnes dans l'entreprise pour leur éviter d'avoir. De leur permettre de remplacer des dizaines de middleware ou de back-office qu'on rajoute à chaque fois dès qu'on a envie de détendre un back-office existant.
Ouais, bien sûr.
Et voilà, donc ils font un gros travail d'évangélisation en entreprise qui n'est pas évident. Et bravo, okay. En tout cas, ouais, pour la Contourman, tout ce que vous faites là-dessus, il y a un gros challenge d'évangélisation sur le no-code, à la fois en B2C et en B2B.
Ok, non mais du coup, je me note, il faut que je revoie un petit peu ces outils.
Ils ont beaucoup évolué
et ma position là-dessus. Ouais.
Et Mendix, par exemple, qui ont à la fois une interface en desktop, un logiciel qu'on télécharge, qui là est du pur low-code. Ils ont développé depuis quelques années une interface web où il y a un niveau gratuit au début, donc on peut l'utiliser gratuitement, qui devient assez proche quand même d'outils comme Bubble. Leur partie workflow est moins évidente. On sent que derrière, c'est des workflows qui parlent au DSI.
Okay.
c'est pas du Integromat, c'est pas du Zapier derrière. Mais on sent qu'ils veulent donner la main aussi aux gens dans l'entreprise pour gérer la maintenance. Et que certes, des cabinets de conseil peuvent faire toute la gestion, mais les entreprises ont aussi envie d'avoir la main et d'avoir la main sur tout le software dans l'entreprise. Alors il y a différentes entreprises. Il y a des entreprises qui veulent être autonomes, d'autres qui veulent tout acheter ou sous-traiter. Mais pour les entreprises qui veulent être autonomes et qui veulent faire monter en compétences des employés en interne, c'est une super opportunité, ces outils-là. Et donc nous, Infinable, on a démarré sur la C plutôt Maker. Donc initialement, c'était pour gérer mes propres side projects. Ouais, donc c'était parfait pour démarrer parce que c'est une clientèle qui est moins exigeante qu'une clientèle d'entreprise. Mais voilà, c'est aussi une cible qu'on regarde. On a fait quelques POC avec eux.
Je vois que vous avez bien étudié un peu les différents marchés. Moi, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité de faire les deux potentiellement, mais tu as raison. Dans un sens, l'outil aussi, après, par sa conception, peut s'adresser plus ou moins justement à des outils entreprises, etc. Bon, si on revient justement un peu sur le côté plus maker, voilà, j'aime bien ce mot. Même si en France, il fait pas mal écho au Fab Lab et tout ça, mais voilà, on a envie aussi un peu de se le réapproprier justement pour les no-codeurs, on va dire. Si on revient à Infinable, moi j'avais une question que tu évoquais un peu à l'instant sur les entreprises, sur justement la connexion aux services extérieurs. Comment ça se passe cette partie-là si je fais mon app avec Infinable et puis je veux récupérer des données auprès, alors soit de cas de figure, on va dire un peu une API, ou alors peut-être un service qui serait déjà intégré à Zapier, ou je sais pas, par exemple si je veux tweeter quelque chose.
Alors au tout début d'Infinable, on avait exploré cette partie-là en s'inspirant de ce que Bubble avait fait avec ses plugins. Donc on l'a très peu utilisé au début parce que les les utilisateurs le demandaient pas tous. Et la plupart des capitalisations, c'était pour des données qui étaient... On recréait tout le data model, donc il n'y avait pas forcément besoin de se connecter. Après, petit à petit, on a commencé à créer des plugins pour des petites connexions comme Stripe, comme des plugins plus pour des éléments visuels. Parce que dans Infinable, on peut étendre les capacités de son application à l'aide de ce qu'on appelle des plugins, comme sur Bubble. Et ces plugins peuvent être de différents types. On va avoir à la fois des éléments visuels qui permettent d'étendre la librairie de base qui est proposée d'éléments visuels qu'on peut, par drag and drop, ajouter dans ces pages. Donc, par exemple, si je veux ajouter un système de commentaires par Discus, par exemple, je vais pouvoir installer ce plugin-là et puis l'ajouter facilement à ma page. Si je veux ajouter même juste une petite pop-up pour les cookies, pour la GDPR, je peux l'ajouter facilement. Donc voilà, on a commencé à créer quelques plugins. Alors tous les plugins qu'on a développés ne sont pas encore accessibles publiquement. On en teste beaucoup dans des applications. Avec les plugins, on peut aussi créer des nouvelles actions qui peuvent s'exécuter dans le navigateur, par exemple, utiliser des API du navigateur. Il y a énormément de possibilités que les navigateurs web incluent dans leur proposent. Et du coup,
quand on parle d'API du navigateur, je pense que pour les gens, il peut y avoir aussi une confusion.
Oui.
C'est vraiment les fonctionnalités du navigateur.
Ouais,
c'est comme ça qu'on dit, effectivement, les API de W3C, etc., qui a à différencier des API REST que les gens ont l'habitude éventuellement d'utiliser, où tu t'interconnectes à un autre système, tu fais des GET, des POST pour récupérer des données. Quoi.
C'est ça. Donc ça, c'est le troisième niveau de choses qu'on peut créer avec les plugins, c'est des connexions à des API externes. Et sur ça, on s'est focalisé initialement sur les API qui ont une sécurité avec une clé d'API. Donc il y a énormément d'API qui quand on se connecte dans son dashboard, dans son profil, dans le profil, si on va sur HubSpot par exemple, on peut aller sur son profil générer une clé d'API qui permet d'interagir avec toutes les données d'HubSpot, de son CRM, depuis un service externe. Et du coup, dans Infinable, on va partager cette clé d'API et accéder à différentes actions, créer un nouveau contact dans mon CRM, récupérer la liste des contacts, récupérer des infos sur son entreprise. On peut créer dès maintenant ses propres plugins. Nous, on a toute une roadmap de plugins qu'on a envie de sortir. De sortir au fur et à mesure. On les teste d'abord un peu sur des applications.
Plugins, ça nécessite de la programmation ?
Pour faire des plugins, pour créer un plugin, oui, ça nécessite de la programmation. Alors, pour s'interfacer avec une API, non. Si on connaît le concept d'une API, on peut tout faire en clic-bouton dans la builder des plugins sur Infinable.
D'accord. Ouais.
Mais dès qu'on veut créer un nouvel élément visuel, on va utiliser React, qui est un peu le framework JavaScript qu'on utilise partout dans Infinable, que ce soit dans la builder ou dans les applications qui sont générées.
D'accord.
Voilà, on peut définir, si on maîtrise un peu React, on peut créer un nouveau composant et le réutiliser tout de suite dans une application ou le partager pour que la communauté puisse l'utiliser. Et après, si on veut s'interfacer avec les fonctionnalités du navigateur, on peut aussi le définir via du code. Mm. Mais sinon, la partie API, on a essayé de faire en sorte que ça soit assez simple à créer. Et c'est vrai qu'il y a un challenge quand on crée ces interfaces avec ces services externes, c'est de rendre aussi toute la configuration assez intelligible, ajouter une sorte de documentation à l'intérieur de la plateforme pour que quand l'utilisateur doit se connecter à HubSpot et qu'il voit qu'il doit partager une information qui est le VID, alors que c'est le visitor ID, essayer d'ajouter quelque chose qui soit plus facilement compréhensible humainement pour un non-développeur, et voilà, permettre de ensuite de réutiliser les informations, de, de définir ce qu'on appelle le data mapping, à savoir comment réutiliser la réponse de l'API et la transformer dans quelque chose qui soit intelligible et utilisable par celui qui crée son application.
D'accord.
Donc ça, on a une bonne roadmap là-dessus dans les semaines à venir.
D'accord. Bon, ça c'est un peu ma dernière question sur un peu quelle est votre roadmap. Mais alors juste avant, juste pour bien comprendre, pour être sûr, si je veux, par exemple, donc moi j'ai une API, par exemple j'ai fait littéralement une API qui donne des citations, des punchlines de Booba.
Ouais.
Donc si je veux appeler cette API, est-ce que je dois créer un plugin ou est-ce que j'ai une possibilité juste dans la builder, puisque c'est une API qui est très simple, qui a juste un seul endpoint, juste de faire un fetch, ou est-ce que je dois faire un plugin?
Tu dois faire un plugin.
D'accord. Donc tu en cliques, ouais. Ça j'ai compris,
ouais.
Mais je le fais par un plugin. Et est-ce que ce plugin, il sera partagé avec la communauté ou est-ce que je peux choisir...
Il y a différentes visibilités.
D'accord.
On peut choisir de le rendre public en open source ou de le rendre privé. Et par exemple, je parlais du use case avec AXA. Sur le use case avec AXA et Uber, on voulait proposer de l'assurance aux chauffeurs Uber et du coup on avait déjà une API pour gérer tout le policy admin system, gérer les sinistres, gérer tout ça, et donc, du coup on a utilisé Infinable pour s'interfacer avec cette API existante qui du coup était en privé et donc c'est effectivement possible d'avoir sa librairie de plugins privés qu'on veut juste utiliser pour ses applications. Okay. L'intérêt de pas le faire au niveau de l'application, c'est que généralement on se dit qu'au niveau de l'application c'est plutôt on a plutôt envie que ce soit des utilisateurs qui ne maîtrisent pas le code. Mmh. La partie plugin, c'est plus des gens qui ont déjà un petit background technique qui peuvent les créer. Mmh. Et non, ensuite, ces plugins peuvent être réutilisés entre
c'est ça qui est assez
différentes
malin,
applications.
Ouais, c'est ce que je vois, c'est que du fait, au début, je me suis dit, bon, c'est dommage, c'est un peu plus compliqué. Moi, je veux juste pouvoir faire un fetch facilement pour récupérer ma punchline. Et en fait, je me dis, bon, en tant que développeur, ça serait pas une bonne pratique. La bonne pratique, ça serait de faire une petite fonction, un petit composant que je pourrais réutiliser dans un autre projet, tant qu'à faire, quitte à le faire une fois, autant le faire bien pour être réutilisable. Donc ça, je trouve que c'est assez malin. C'est assez intelligent de forcer un petit peu les gens dans cette bonne pratique, quoi.
C'est évidemment une pratique qu'on a en développement, qui est de transformer son application en composant. C'est quelque chose, une évolution dans le développement web qu'on voit de plus en plus, qui est de la création de composants à la fois visuels avec toute la littérature qu'on trouve sur les design systems avec des atomes qui sont un peu le composant au niveau le plus élémentaire, des molécules qui sont des groupements de ces composants. Et puis pour des actions, tout ça, c'est effectivement une bonne pratique de transformer en composants. Et dans Infinable, on essaie d'avoir cette approche de composants, de configurations qu'on peut réutiliser. Et par exemple, quelque chose qu'on va essayer de faire dans les mois à venir, c'est de passer la partie data model à un niveau plus global pour pouvoir le réutiliser dans d'autres applications.
D'accord.
En fait, avoir un peu trois sortes de choses qu'on peut créer dans Infinable, des applications, des plugins, des data models. Et finalement, un data model, c'est une base de données que je peux vouloir utiliser dans une petite application qui est plus pour les clients. Puis ensuite, je peux avoir une autre application que je veux créer qui est plus interne. Et j'ai pas envie de recréer le data model depuis zéro. Alors, on créera toujours le data model dans la builder, mais on pourra la réutiliser dans d'autres applications plus facilement. Et pareil pour d'autres. De temps en temps, quand j'installe un plugin dans Infinable et que je le configure, j'ai envie potentiellement de réutiliser la même configuration dans d'autres applications. Et du coup, voilà, c'est avoir des configurations de plugins qui sont plus globales. Et c'est vrai que pour l'instant, la cible des utilisateurs d'Infinable, c'est plutôt des gens, des individuels. Mais quand on travaille en équipe sur un outil comme Infinable, on a envie de mutualiser toutes les ressources, toutes les configurations pour pas avoir à chaque nouvelle application à devoir tout redéfinir, redéfinir toute la configuration des plugins que j'utilise, même mes clés d'API, c'est toujours casse-pied de devoir les copier-coller entre différents plugins, un modèle de données, je peux avoir envie de l'utiliser dans plein d'applications. Et donc c'est pour permettre cette gestion en équipe Et du coup, pouvoir faire des petites applications plus élémentaires. Voilà, c'est un peu une...
D'accord. Et alors, sur votre roadmap, justement, ouais. Là, tu as cité pas mal de choses, mais alors, qu'est-ce qui a à venir un petit peu dans le court terme, plus long terme? Et deuxième question liée, comment vous impliquez votre communauté aussi dans tout ça? Est-ce que la communauté est impliquée? Est-ce qu'elle vote? Est-ce qu'elle décide? Est-ce qu'elle vous fait des feedbacks?
Alors, j'ai commencé par la communauté. C'est vrai que depuis la création, on s'est beaucoup focalisé sur des relations en one-to-one avec les utilisateurs. Comme on était initialement, la plateforme n'était pas stable. Elle a pas mal évolué depuis. Donc, on n'a pas beaucoup développé l'aspect communauté et puis entraide entre les utilisateurs. C'est un objectif pour 2020 de développer cette communauté à la fois à l'aide sur le forum, à l'aide et permettre aux gens de partager leurs projets, de s'entraider. Déjà, ça permet de simplifier le support client aussi, en partie. Et puis aussi, permettre de partager des templates qu'on a créés qui puissent être réutilisés pour d'autres, par d'autres, nos codes développeurs. Et donc, cette partie communauté, elle est encore naissante. On a créé une application sur Infinable pour permettre aux utilisateurs de voter pour des nouveaux features. Okay. Un peu, on a créé un clone de Kany, je sais pas,
ouais, bien sûr.
Qui permet d'avoir différents types de feature requests, de les classifier et d'avoir un peu comme sur un Trello de toutes ces features, et puis permettre aussi aux utilisateurs qui sont logués de pouvoir proposer un nouveau feature. Donc ça, voilà, on va essayer de le sortir déjà pour partager notre roadmap, ce qui est important, et puis permettre d'avoir des feedbacks à la fois sur les nouveaux plugins à créer, parce qu'il y en a. C'est tellement énorme le nombre d'API qui existent qu'on peut pas tout créer, il faut prioriser les choses.
Mais d'ailleurs, peut-être que par rapport à ça, est-ce que c'est pas la bonne solution? Peut-être c'est juste de se faciliter le branchement avec Zapier ou avec Integromat et laisser eux gérer l'interconnexion, quoi.
C'est une question qu'on se pose. C'est vrai qu'on est on est toujours tenté de vouloir tout mettre dans une plateforme no code et de d'éviter au maximum que les gens sortent de la plateforme. Effectivement, dans les plugins prioritaires, il va y avoir Zapier, Integromat et puis d'autres outils de gestion de workflow. On a quand même des plugins qu'on a envie de beaucoup de plugins qu'on a envie de mettre en natif à l'intérieur. Déjà parce qu'on a le framework qui est prêt pour gérer les plugins. Alors on a des types d'authentification de plugins qui sont pas encore très bien gérés, comme l'authentification par Open Authentication qu'on n'a pas encore fini d'intégrer. On veut essayer de limiter au maximum le fait de devoir utiliser un autre outil, d'autant plus que les API, c'est assez standard, et puis ça prend pas non plus tant de temps que ça d'intégrer un nouveau plugin. Et puis ça s'intègre bien du coup dans les workflows Infinable. Mais comme on ne pourra pas tout gérer et que Zapier a intégré une bonne partie des API de la planète, on va bien évidemment intégrer Zapier à Infinimal.
Okay.
Donc ça fait partie de la roadmap. Dans les autres parties de la roadmap, on travaille beaucoup en ce moment sur la partie des workflows qui s'exécutent côté serveur. Actuellement, on peut lancer des actions que depuis une interaction depuis l'interface. À savoir quand la personne clique sur un bouton, je vais créer une action qui va me créer un nouvel élément dans ma base de données. Mais on a aussi dans beaucoup de cas envie d'avoir des actions qui soient générées, qui proviennent d'événements qui viennent pas forcément d'une interaction utilisateur. Si j'ai envie de toutes les semaines parcourir ma base de données et puis je sais pas, envoyer des emails,
supprimer les utilisateurs qui ne sont plus
supprimer les utilisateurs actifs, qui sont, c'est ça, ouais. On essaie d'intégrer d'autres types d'événements pour avoir des exécutions qui plus riches et puis gérer gérer un peu tout ce qu'on, tous les cas d'usage différents qu'on peut avoir quand on développe un projet web.
Ok.
Donc là, il y a cette partie workflow, la partie des plugins, et puis il y a toujours du boulot sur la partie interface.
C'est sans fin,
heureusement qu'on savait pas à l'avance quand j'ai commencé à développer, je pensais pas que ça serait aussi un projet aussi énorme que ça, et heureusement, ouais, sinon on découvre au fur et à mesure.
Faut pas être découragé par la tâche titanesque. Mais maintenant que vous êtes bien engagé dedans,
c'est d'autant plus motivant.
Parti. Super. Et on arrive à la fin. On fait déjà presque une heure, donc c'est cool. C'était hyper intéressant d'avoir justement un peu tout ce process de création vraiment d'éditeur de solutions no code. Je trouve qu'on a abordé plein de problématiques. Je pense que pour les gens qui sont, je pense que les auditeurs sont principalement des gens qui utilisent ces outils no code. On va avoir un peu l'envers du décor. Je trouve que c'est hyper intéressant. Alors j'ai une dernière question, qui est une autre question un petit peu qu'on pose à chaque invité, qui est, si tu avais un side project à construire avec Infinable, qu'est-ce que ça serait ?
Alors, comme j'ai dit, c'est vrai que j'ai écrit Infinable pour mes side projects initialement.
Maintenant tu dois moins avoir de temps pour en faire, j'imagine.
J'ai moins de temps pour en faire, c'est vrai, mais après l'avantage, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit Infinable, c'est que chaque chose que je fais dès que je teste un side project dans Infinable, c'est du débuggage et c'est du retour du retour client par moi-même qui est gratuit. Alors j'ai un side project que j'ai lancé sur Infinable et qui se développe un peu. Ça s'appelle We Love. C'est un coach pour les couples, sur lequel je travaille avec ma femme. Ça permet à la fois de pousser les couples à dialoguer sur des sujets auxquels ils auraient jamais pensé, et puis à l'aide de quiz aussi un peu interactifs, leur permet de mieux se connaître. Initialement on l'avait créé sous forme de chatbot avec Chatful, qui est un outil no-code qui est sympa, et on l'a transformé en API avec on l'a transformé en application web, et puis éventuellement après application mobile. Ça permettra d'être un premier cas de test pour le mobile. Et puis on a testé pas mal de side project, je pense une 8 side projects différents avec on a même fait travailler des lycéens un moment sur un side project comme ça, leur faire tester la plateforme. Alors c'était pas évident parce que c'est le début où la plateforme était pas forcément très simple à comprendre. Je pense que ça serait toujours peut-être un peu complexe maintenant de les faire utiliser, mais c'était assez amusant d'avoir leur retour.
Vraiment comme on dit dans le milieu des startups, un peu c'est eat your own food, vraiment utiliser ses propres outils et résoudre ses propres problèmes, quoi.
C'était un peu mon objectif quand j'ai créé Infinable. Je voulais ne plus avoir à devoir écrire du code quand je démarre un side project, et je peux le dire que maintenant j'y suis arrivé et que j'arrive à faire la plupart des actions. Et quand je vois quelque chose qui bloque, j'essaie de voir si c'est quelque chose que la communauté a aussi rencontre aussi, pour pas uniquement faire des problèmes qui me concernent que moi. Mais c'est un bon moyen d'être motivé vers son produit, parce que quand ça gère aussi des cas à côté, des use cases à côté, et puis c'est toujours sympa de voir sa famille, ses amis qui peuvent l'utiliser pour des side projects. C'est quand même la première cible qu'on essaie de satisfaire.
Ouais. Non, mais c'est chouette. Bon, tu reviendras dans quelques temps, et puis tu nous parleras des évolutions et des projets, des side projects qui ont été faits avec Infinable la prochaine fois. Et voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour tout
merci
ça.
Beaucoup,
c'était passionnant. Et puis à très bientôt. T'es inscrit sur le Slack de contournement aussi. Ouais. Donc s'il y a des gens qui ont des questions à te poser suite à ça, ils pourront le faire là, par exemple. Où est-ce que d'ailleurs, sinon, ils peuvent vous retrouver sur la plateforme? J'imagine qu'il y a des moyens de vous contacter.
Sur la plateforme, il y a le chat, par email. On a laissé l'email pour nous contacter. On essaie d'être assez réactif, de faire des calls, du live coding avec nos utilisateurs. C'est sympa. On a J'ai, la semaine dernière, je faisais du live coding avec un Serbe qui voulait créer des CRM pour dentistes. Et donc c'est assez rigolo. On rencontre des gens assez insolites.
Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé, mais l'interface est en anglais.
L'interface est en anglais, oui.
Donc ça, c'est ouvert pour tout le monde. Enfin, ouvert au monde, en tout cas.
Oui. Et les premiers utilisateurs étaient... Les Français sont arrivés assez tardivement, à part le cercle proche. C'était beaucoup des Américains au début. Il y a énormément d'Indiens aussi. J'étais étonné. Je pense qu'en Inde, ils aiment beaucoup tous ces outils.
Ouais.
Alors après, il y a toujours la question du pricing, qui est savoir avoir un pricing qui est adapté au salaire local.
Des pricing géolocalisés.
C'est ça.
Je pense que ça ne s'est jamais vu encore.
Ça ne s'est jamais vu encore, je pense.
Bon, bah, peut-être une
on arrive toujours avec un VPN à tricher.
C'est ça. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça n'existe pas. Bon, bah, merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Et surtout bonne continuation. On va suivre avec attention les nouveautés de Infinable.
Bah, merci beaucoup.
Merci. Salut.
Salut.